On y va pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu goûtes ça.
Bon, je vais vous faire goûter le 85. Vous allez voir, c'est une année exceptionnelle. Jamie, toi, tu trempes juste ton doigt, d'accord?
Ok.
Alors, on commence par quoi?
L'odeur?
Non, la couleur.
Ah ouais, la couleur.
Jamie?
C'est du blanc?
Ah oui, ça c'est du blanc. Bravo, je reconnais mon fils, là.
Ça sent la grange.
Oui, très juste. Ça sent la paille.
Ça vous fait penser à quel fruit?
À du citron.
Très bien, Juliette. Oui, et un peu trop d'acidité. Et derrière le goût de citron, tu sens pas un autre fruit?
De la poire?
Mais non, Jean, non.
C'est le truc qu'on a mangé chez les Chinois, là?
Exactement.
Le litchi?
Voilà.
Ouais, c'est bien. C'est fort, hein?
Vous êtes doués. Vous allez être bons tous les trois.
Bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur le plateau dont on va déguster un papa vigneron en train d'éduquer ses enfants aux arômes de ces vieux millésimes. Et si le vin était rien de moins qu'un héritage? C'est l'un des enjeux du nouveau Clapiche. Ce qui nous lie sort en salle ce mercredi. Bonjour Cédric Clapiche.
Bonjour.
Vous avez choisi la Bourgogne comme toile de fond de votre film. Une histoire de famille dans les vignes avec entre autres Pio Marmaille, Anna Girardot et François Civil. Alors autant le dire, on a beaucoup aimé votre film dans la fine équipe dont on va déguster. D'abord parce qu'il nous a fait passer par tous les registres émotionnels. On a souri, on a ri. On a versé des torrents de larmes, suivez mon regard. Et puis on a eu accessoirement très très envie de boire du Bourgogne. Aussi parce que ce film est un passionnant document, voire un documentaire sur le vin en général et la Bourgogne en particulier. La Bourgogne au menu dont on va déguster, qu'est-ce qui nous lie à ce vignoble aujourd'hui? Pourquoi il fascine? Pourquoi sa complexité rebute? Son succès mondial rend-il ses vins de plus en plus inaccessibles? Existe-t-il encore des vins en Bourgogne bon marché? Ce sont quelques-unes de ces questions qu'on va se poser ensemble. Alors avec Cédric Clapiche qui se passionne pour la Bourgogne depuis longtemps, mais également avec un vigneron bourguignon, Nicolas Potel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à la tête du domaine de Bélène, à Beaune. Un domaine qui fait beaucoup parler de lui pour la qualité de ses vins, mais aussi pour sa dimension écologique. On va en parler avec vous. Vous avez déjà ouvert quelques cuvées.
Oui, on va commencer par un Centenelle et Charles-Monsieur d'ailleurs.
Ah, carrément. Eh bien, écoutez, on va commencer en beauté, c'est parfait, également autour de ce plateau. Notre chroniqueur vin, Antoine Gerbel, bonjour.
Bonjour.
J'ai envie de pénétrer dans le monde complexe et parfois un peu fermé de la Bourgogne, en tout cas c'est l'image qu'on peut en avoir. Comment je m'y prends? Vous allez notamment, tout au long de cette émission, nous livrer quelques conseils.
Oui, parce
pour
que
apprivoiser ce vignoble.
La Bourgogne, c'est une grande côte avec des clés pour rentrer, mais il y a des clés partout.
Bon, on espère trouver les bonnes clés avec les bons verrous. Estherel Payani, bonjour.
Bonjour.
Ouf, je me suis dit que dans une émission liquide, il nous fallait quand même un peu de solide et de la solide littérature.
Oui, de la très bonne littérature avec une auteure bourguignonne aussi bouclée que Romain Duris dans Le Péril Jeune.
Ah, on joue le suspense ou pas?
C'est
on donne
indice.
La solution des jeux
c'est
pendant
un
l'émission,
indice,
ça marche.
À tout à l'heure.
La fine équipe dont on va déguster Michel Billou, Julien Michel, Nadia Chougui, Djoubaka pour la programmation musicale, franceinter.fr à la page on va déguster pour retrouver toutes les infos, le podcast de l'émission Cap sur la Bourgogne.
Puligny, Chassagne, l'un derrière l'autre. Ici, c'est Meursault, là, tu vois le village, juste là. Et derrière, t'as Volnay, Pommard, ce que je te montrais tout à l'heure. Et ici, à Meursault, on a les Grouillages, là, juste devant là, tu vois.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
Et dire que ce film a failli s'appeler Le Vin. Et ensuite, ce fut 30 printemps, puis peut-être Le Vin et Le Vent. Un temps, vous avez aussi pensé à Ce qui nous noue. Du verbe nouer, un clin d'œil à Ce qui me meut, du verbe mouvoir, un court-métrage que vous avez réalisé il y a 27 ans. Et puis vous avez finalement, Cédric Clapiche, opté avec Studio Canal pour Ce qui nous lie. Expliquez-nous ce titre.
Bah, c'est, d'une part, on a mis du temps à trouver le titre. C'est un film qu'on a cherché vraiment. C'est beaucoup un film sur le temps, donc finalement le temps a été important. Il a fallu être patient. Et au début, je suis parti sur le vin, j'ai voulu faire un film sur le vin. Et je précise que c'est une fiction, hein, même si il y a des
évidemment
documentaires. Mais au bout du compte, c'est plus un film sur la fraternité et le rapport des frères et sœurs.
Il y a aussi la lie du vin, peut-être.
Alors il y a aussi la lie du vin, bien sûr. Il y a forcément le jeu de mots. Oui.
Le pitch du film, Jean, qui est incarné par le très charismatique Pio Marmaille, qui qui ne vous a pas laissé indifférent, Estarel.
C'est un très bon acteur.
Oui, c'est ça. Il revient d'Australie, où il s'est installé. Quand il apprend que son père est gravement malade, alors il rentre en Bourgogne où sa famille tient un domaine viticole. Il retrouve sa sœur Juliette, incarnée par Anna Girardeau, et son frère Jérémy, François Civil. Leur père meurt juste avant les vendanges. Et l'intrigue de ce film au cœur des vignes, eh bien, c'est l'histoire d'une fratrie qui retisse ses liens en même temps qu'elle apprend à faire du vin, en commençant par les vendanges.
Lundi ?
Lundi dans 8 jours.
Oui, lundi dans 8 jours. Jean, rigole pas ! C'est pas drôle.
Dans 8 jours ?
Oui.
Goûte côté soleil. Pour moi, c'est jeudi, ça.
Jeudi ? Mm-hmm. Dans 4 jours ?
Dans 4 jours, hein. Mm. Si tu commences dans 8 jours, tu risques d'arriver en retard pour les rouges. Et en plus, tu feras de la confiture en fin de vendange. Il coûte bien, là, déjà, non ? Mm. Tu sens ?
Ah, mais les peaux, elles sont super épaisses.
Et ?
Bah, si c'était bon, elles seraient plus fines, non ? Le jus, il viendrait plus facilement. Regarde, les pépins, ils sont à peine bruns. Franchement, moi, j'attendrai à 4 jours près, on aura plus de chair.
Bah oui, parce que toi, en fait, tu veux faire du vin plus facile, non ? Comme celui de papa ? Tu préfères pas un vin plus tendu, avec de l'acidité ?
Ouais.
Bah alors ?
Lundi, jeudi, quel jour faut-il commencer les vendanges ? Question cruciale ?
J'imagine, alors c'est peut-être plus à Nicolas de répondre. Est-ce que à 4 jours près, c'est très différent ?
Bah, 2 jours près, c'est bien expliqué dans le film d'ailleurs, parce que la fenêtre de vendange, la fenêtre où on doit cueillir le raisin, c'est vraiment très court. On va parler de 48 heures, peut-être 3 jours maximum. Donc effectivement, il y a le problème d'acidité, il y a le problème d'alcool, etc. Mais c'est surtout la maturité optimale du raisin, quoi.
Alors il y a cette décision-là, le démarrage des vendanges, selon évidemment
les cépages
et les parcelles, ouais, absolument. Mais on comprend d'ailleurs à travers le film que finalement toute décision humaine, tout au long du processus de la fabrication du vin, détermine finalement le résultat final dans le verre.
Bah, dès le départ, même, parce que même la taille, dès le départ, c'est-à-dire que la taille, la façon dont vous allez conduire la vigne, la façon dont vous allez faire ce qu'on appelle l'échelonnage, c'est-à-dire la taille en verre, etc. Enfin, tous les travaux de la vigne pendant toute l'année, le type de traitement que vous allez utiliser, parce qu'on va parler du bio, etc. tout à l'heure, certains types de traitements, va renforcer les peaux, va faire, enfin, etc. Donc, vous avez beaucoup de choses qui font que vous pouvez changer le type de vin dès le départ à la taille et pendant tous les travaux manuels.
Cédric Clapiche, Jean, l'un des héros du film, à un moment donné, envoie une petite pie qui fait une allusion au vin tel que le faisait papa. On sent aussi que d'une génération à l'autre, finalement, la vision du vin peut différer, peut être différente. Il peut y avoir des divergences, presque des conflits d'opinion. Est-ce que ça veut dire que le vin est une affaire d'auteur ?
C'est une affaire d'auteur. On sait bien que les vignerons en Bourgogne signent leurs bouteilles. Donc, à Meursault, je crois qu'il y a une centaine de personnes qui font du Meursault. Et il y a 100 Meursault différents. Donc, c'est pas juste le terroir qui joue. Mais il y a aussi le fait que, oui, il y a des décisions humaines qui font que, on conduit la nature, disons.
Votre film est greffé, carrément, c'est le cas de le dire, sur une année entière dans les vignes et dans les chais. Ça veut dire que l'intrigue se noue dans la fratrie tout en se mêlant à la fabrication d'un vin à la mort du père.
Ouais.
Ça veut dire qu'en termes de tournage, ça a été, j'imagine, difficile de se caler sur une année entière de fabrication du vin.
En fait, j'ai compris très vite que je ne pouvais pas parler de ce sujet-là sans parler des 4 saisons. Et je ne pouvais pas choisir. En général, on tourne pendant 2 mois un film. Là, je me suis dit, on va garder la même durée de tournage. On a tourné 12 semaines en tout, mais 12 semaines réparties sur 12 mois. Donc, on a tourné 4 fois et il a fallu faire un planning. C'est comme si on avait fait 4 films, quoi.
Vous avez été un peu tributaire de la nature.
Complètement. Parce que les dates, en fait, c'était la nature qui choisissait, c'était pas nous. C'est-à-dire que ça a commencé par la date des vendanges, c'est-à-dire qu'on était arrivé à Jean-Marc Rouleau, chez qui on a tourné, qui est à la fois acteur et vigneron.
Grand vigneron à Meursault.
Et qui nous a dit très peu de temps avant, 3 jours avant, c'est le 27 août, la date des vendanges. Donc nous, on était là, on savait qu'on pouvait bouger les dates, mais c'est vrai qu'on était tout le temps tributaire du temps, de la météo, un peu plus que sur d'autres tournages. La séquence où on fait du sulfatage dans les vignes, il fallait qu'il fasse beau, parce que s'il pleuvait, on ne pouvait pas sulfater. Il y avait plein de choses comme ça où on était vraiment tributaire de la nature. Ouais.
Vous n'avez pas attendu votre nouveau film, Ce qui nous lie, pour vous intéresser de près à la Bourgogne. Racontez-nous l'histoire de votre relation assez intime à ce vignoble.
C'est vraiment lié à mon père, je dirais. C'est-à-dire que lui n'a toujours bu que du Bourgogne. Donc il est monomaniaque.
Comme beaucoup de Français, non ?
Monocépage. Et donc j'ai grandi là-dedans. C'est-à-dire que vers 17-18 ans, j'ai commencé à aller avec lui, avec mes sœurs, en Bourgogne. Lui, il va acheter une fois tous les 3 ans, disons, du vin en Bourgogne. Il a des adresses. Et donc j'ai commencé à faire ça avec lui assez tôt. Et donc j'ai découvert et la région et le fait de déguster du vin dans les caves, de faire la différence entre différentes appellations, différentes parcelles, et c'était intéressant.
Et de là en faire un film.
Et de là en faire un film, ouais, c'est vrai, parce que c'est vrai que j'ai toujours aimé ces voyages. Mm-hmm. Puis voilà, je pense que j'avais besoin de faire un film sur mon père, et ça a été l'occasion de parler justement de ce rapport père-fils qui est toujours un peu compliqué.
Il y a eu toute une phase d'approche quand même de ce vignoble.
Ouais.
L'idée a en quelque sorte décanté sur plusieurs années. Vous avez même interrompu en quelque sorte, ça s'est fait en plusieurs étapes. Racontez-nous justement la façon dont vous avez fait vos repérages en Bourgogne.
Disons que ça fait une dizaine d'années que je me suis dit, je veux faire un film sur le vin.
Mm-hmm.
En 2010, donc il y a 7 ans, j'ai été photographier et filmer les vendanges chez Jean-Marc Roulot. En fait, j'ai appelé un peu tous les gens que je connaissais en Bourgogne en disant, j'aimerais bien voir les vendanges, me renseigner là-dessus. Puis à la suite de ça, j'étais vraiment déterminé à faire un film là-dessus, parce que j'ai adoré le moment des vendanges.
Mm-hmm.
Et j'ai commencé à chercher un arbre, parce que j'avais envie de voir un arbre et des vignes, disons, aux différentes saisons. Et donc, j'ai trouvé un arbre à Meursault, un arbre à Pommard, un cerisier, dans les deux cas. Et puis, on a filmé cet arbre 52 fois dans l'année. Donc, chaque semaine, il y avait Michel Baudouin, qui est un photographe qui vit là-bas, qui a été filmé cet arbre. Et donc, ça a fait ce qui est présent dans le générique.
Ce qui donne un générique tout à fait spectaculaire, d'ailleurs.
Et c'était vraiment un fantasme de me dire, voilà, j'aimerais bien voir un paysage qui évolue avec le temps.
Nicolas Potel, vigneron ici présent, n'est pas totalement un inconnu pour vous. Je crois qu'il a aussi contribué à vous faire découvrir un peu la Bourgogne, Cédric Lapiche.
Oui, alors justement, Jean-Marc Roulot ou Alex de Monti ou Michel Baudouin m'ont présenté des gens. Je me demande si c'est pas Michel.
Oui, c'est pas Michel.
Ouais, c'est ça.
Le soir, on s'était vu, la première fois on s'est vu, c'était au bout du monde.
Oui, c'est ça.
Tu vois, tu connais
cette personne. C'était au Festival de Beaune.
Voilà, Festival de Beaune. Ouais. Et j'étais présenté
Fabienne.
À tout le monde, et puis après j'ai disparu et je savais pas qui j'étais finalement. Mais oui, finalement. C'est Michel qui t'a dit, ouais, Nico, c'est Nico Potel, donc etc. Donc on a fait un repas après ensemble.
Voilà, c'est ça, avec Jean-Marc.
À la maison, avec Jean-Marc, Manu Giboulot, tout ça.
Ça se passe comment, Nicolas Potel, quand on accueille l'étranger en Bourgogne? C'est une visite aux caves, on goûte au fût directement, plus si affinité, ça peut être un dîner, et là les langues se délient.
Là, en l'occurrence, effectivement, il y a eu la cave et le dîner.
Ouais.
Donc alors,
on parle pas d'abus, on est bien d'accord, il n'y a pas eu d'abus. Mais non, on s'est fait une belle descente de cave avec Sylvain, puis Jean-Marc Roulot, enfin plusieurs personnes. Et puis donc il y avait les deux scénaristes qui étaient là.
Ouais,
il y avait le match de foot d'ailleurs, Santiago regardait le match de foot. Et nous, on était à table. Et oui, après, il y a un grand repas, parce que finalement, c'est quoi? C'est convivialité. D'ailleurs, le film l'explique vraiment, c'est ça. L'idée du vin, qu'est-ce qui nous rapproche? C'est avoir une belle bouteille, pouvoir parler. Le vin, c'est un support, mais finalement, c'est quoi? C'est la discussion qui est autour qui est intéressante.
Et si on...
toute la vie qui va être autour.
Et si on joignait à la parole le verre, par exemple, on ferait quoi?
Eh ben, allons-y.
Allez, on est sur quoi?
Centenay, c'est un Centenay village, les charmes dessus. Donc, on est au sud-sud de Centenay, sur des terroirs très argileux.
Est-ce que vous autorisez, Antoine Gerbel, notre critique vin, à procéder à une petite dégustation?
Avec plaisir.
Allons-y.
Ben, la santé, ça me fait plaisir que Nicolas Potel amène cette appellation, parce que ça avait fait partie de mes petites appellations chéries, notamment pour découvrir la Bourgogne, le sud de la côte de Beaune, et puis même maintenant la côte chalonnaise, on va dire, c'était un peu des terrains incognita, parce que la Bourgogne, tout le monde la connaît, elle est magique, tout le monde l'a traversée, malheureusement, trop rapidement, mais c'est sur place qu'on découvre, bien évidemment, toutes les nuances de terroir, parce qu'on n'a pas parlé de climat, terroir, c'est un patchwork incroyable, une référence mondiale, c'est-à-dire, vous discutez avec tous les vignerons, donc que ce soit Auckland, que ce soit du côté de l'Oregon ou même au fin fond de l'Argentine, leur rêve ultime, c'est quand même d'approcher ce détail, parce que c'est un souci de détail. Et un détail fait non pas dans la sophistication, mais avec un côté toujours très paysan, un côté très pied sur la terre. Et donc c'est ça qui est magique en Bourgogne, c'est qu'on a à la fois peut-être nos plus beaux paysans qui réussissent à transmettre ça de père en fils, et une sophistication qui remonte aux moines avec un découpage cépage de vignoble magnifique. Alors là, le Centenay, on est vraiment dedans. Hein, on est dans ces nuances. Les blancs de Nicolas Potel, j'aime beaucoup parce que ça donne une impression déjà d'ouverture, une impression d'avoir un vin déjà qui vous cajole. Et puis quand il vous rentre en bouche, il vous rappelle qu'il en a encore beaucoup à vous raconter, le temps.
Ça fait saliver aussi. Hein.
Ben exactement, ce côté un peu salin qui arrive. Et ça, il nous parlera peut-être de sa viticulture, mais c'est aussi une viticulture qui est mise en place de haute méthode.
Cédric Lapiche, un petit avis sur ce
Centenay. Je tiens à préciser que c'est la première fois que je bois du Centenay blanc. Je savais même pas que ça existait.
Ouais.
Et j'adore. Non, c'est vraiment très bon. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. J'adore le fait que plus on connaît la Bourgogne, plus on connaît des endroits qui sont moins connus. Et donc moi, il y a effectivement Centenay, Marange, qui est juste à côté de Centenay, la famille Chevreau, j'ai dit bonjour
oui,
à la famille Chevreau. Et c'est vrai que j'aime bien les appellations qui sont à côté de celles qui sont connues. À côté de Meursault, il y a Saint-Aubin. J'ai dit bonjour à Sophie Bormann.
Oui.
J'adore le Saint-Aubin. Oui, les combes
Saint-Aubin, Saint-Romain aussi.
Ouais, Saint-Romain, pareil. Ouais. Et c'est vrai que c'est formidable de découvrir ça.
Nicolas Potel, un mot de votre domaine de Bélène, en précisant d'ailleurs que Bélène, c'est l'ancien nom de Beaune. C'est précisément là où vous êtes installé, dans un magnifique bâtiment du 15e ou 16e siècle.
Ouais, 15e siècle, qui est au centre de Beaune. Et puis, c'est vrai qu'on a utilisé le nom Bélène tout de suite dès qu'on est arrivé, parce que le bâtiment s'y prêtait.
Mm-hmm.
On a fait un gros travail sur le bâtiment et puis surtout sur les vignes, parce que finalement, on a repris des vignes depuis 2005, petit à petit. Donc c'est les fermages, hein. La plupart des choses sont les fermages où c'est des investisseurs qui achètent les vignes et nous on les loue. Mais par contre, on remet en place le vignoble. Donc on a sélection Massal, qu'on a refait nous-mêmes, qu'on est en train de mettre en place pour tout notre vignoble.
Sélection Massal, en un mot.
Enfin, en fait, vous prenez les rameaux de l'année précédente.
Oui.
Et ensuite, vous les multipliez. Mais vous passez pas par le clone, donc c'est toujours l'individu reste.
C'est ça, c'est un peu reconstituer une famille nombreuse. On va dire que dans les années 70-80, les clones sont arrivés.
Mm-hmm.
On a sélectionné des vignes qui produisaient surtout du sucre et surtout du raisin. Et on a un peu oublié toutes ces nuances qu'il y avait dans ces micro-défauts presque qui font après le vrai goût du raisin. Et la sélection Massal est un retour. C'est très compliqué, ça demande énormément de travail, énormément d'observation, du risque aussi, parce qu'on peut se tromper aussi, on peut prendre de mauvaises Massal. Et donc ça, c'est une reconstruction très haut de gamme.
Méthode tout à fait naturelle, ça, on va en parler. Vous êtes retrouvé un peu dans le film de Cédric Lapiche.
Ah ben, tout à fait. Bah d'ailleurs, par rapport au temps, ce que disait Cédric tout de suite, je pense que le temps, c'est un des facteurs énormes sur le vin, parce que c'est pérenne. Enfin, vous voyez, les vignes, vous les plantez, c'est 40 ans, 50 ans, 60 ans, rien que ça. Et puis après, quand vous faites du vin, ça prend du temps. Et si vous faites du Mar de Bourgogne, si on part sur ces appellations-là, alors là, on parle de 20 à 30 ans pour finaliser un produit qui sera exceptionnel à la fin. Mais voilà, c'est ça que j'ai adoré dans le film, justement, c'est la fratrie, ça, j'ai adoré l'histoire de... Voilà, les frères et sœurs.
Comme le héros, vous avez fait votre petite trip aussi en Australie.
J'ai eu un peu. Je me suis bien retrouvé avec Pio. D'ailleurs, on s'est bien retrouvé avec Pio. D'ailleurs, on est devenus amis après plusieurs soirées en Bourgogne. Mais et d'ailleurs, je pense qu'on va se revoir sur Paris et puis dans la région parce qu'il adore faire de la moto. Donc, je l'ai invité à venir faire un petit tour en Bourgogne et d'ailleurs aller voir les Ruys, d'autres appellations que seulement les Meursault et les Beaunes.
Dans un instant, on poursuit notre exploration de la Bourgogne à l'occasion de la sortie de Ce qui nous lie, le dernier et très beau Clapiche. Couple of drinks, gotta find myself a 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 couple of drinks. Red, red wine, you make me feel so fine. Red, red, red wine, make me feel so fine. Red, red, red wine, I got troubles on my mind. Red, red, red wine, make me feel so fine. Red, red, red wine, I got troubles on my mind. I went down the street to find myself a couple of drinks, hanging around with my homies, having fun together, a real pleasure. Thinking about what I have to do to get happiness back in my life again. Sometimes some brewish can do this, bro.
red, red wine can make you feel so fine. Jet set black, everything comes from God.
Red, red, red wine, make me feel so fine. Red, red, red wine, I got troubles on my mind. Red, red, red wine, make me feel so fine. Red, red, red wine, I got troubles on my mind. In the morning with the red, red wine, I didn't feel that fine. Not even better, but whatever. We rolled out of troubles, a slight rumble in the jungle. But the thing is when I'm feeling sad, I will always get some red, red wine, yeah. And that's a fact. Red, red, red wine, make me feel so fine. Red, red, red wine, I got troubles on my mind. Red, red, red wine, make me feel so fine. Red, red, red wine, I got troubles on my mind.
On va déguster le magazine gastronomique de France Inter.
Une petite pépite de notre ami Djoubaka, Bibi Tanga et The Selenites, Red, Red Wine, et pourquoi pas du blanc aussi.
Il est où Ben?
Ben!
Mais ça va pas ou quoi? Vous êtes complètement inconscient. Vous voyez pas qu'il y a un enfant derrière?
C'est moi qui êtes complètement inconscient d'emmener un enfant ici.
Mais on est dans les vignes. On se balade dans la nature. Personne vous oblige à répondre aux produits de merde, hein?
Ah, évidemment, ouais.
C'est pas des produits de merde.
Ah non?
Non.
C'est pas de la merde?
Non.
Alors vas-y, enlève ta combi. Enlève ta combi, je te dis.
Allez, arrête tes conneries, genre.
Non, attends, ça m'intéresse. Pourquoi t'enlèves pas ta combi?
Parce que je mets du simoxanil contre le mildiou. Et si tu veux tout savoir, c'est exactement le produit que mettait ton père. Alors me fais pas ton cirque, là, s'il te plaît.
Tu veux que je te rappelle où il est mon père, hein?
Allez, Jean, arrête de faire le gogol, là. Tu sais très bien qu'après le printemps pourri qu'on a eu, on va avoir du mildiou partout. Toi, si tu veux répandre tes produits de ta fiole avec tes infusions d'ortie et tout ça, je t'en empêche pas. Bon, bah alors fous-moi la paix.
J'ai même pas envie d'en parler avec toi, ok? Par contre, là, t'es chez nous. Alors tu vas dire à ton gars d'arrêter d'asperger ses merdes sur mes vignes, ok? Nous, on est en bio. Alors vous mettez ce que vous voulez sur vos vignes, mais je veux pas que ça déborde sur les miennes, c'est clair?
Un extrait de Ce qui nous lie, de Cédric Clapiche. Quand les enfants du domaine, qui sont, on l'a compris, convertis ou militants de la biodynamie, s'opposent aux voisins vignerons déguisés en cosmonautes en train d'asperger ces vignes de produits chimiques, hein, Cédric Clapiche.
Ouais, ouais. Bah, c'est-à-dire qu'en Bourgogne, les parcelles sont petites, donc on a deux rangées au milieu de plein de rangées de vignes. Et donc ce genre de choses arrive, c'est compliqué d'associer les gens qui sont en bio avec les gens qui ne sont pas.
C'était important pour vous de restituer ce débat qui traverse quand même non seulement la Bourgogne mais tous les vignobles de France et du monde, l'idée de travailler plus ou moins vertueusement ces vignes et d'ailleurs dans les chais aussi.
Bien sûr, bah c'était impossible de parler du vin sans parler de ce problème-là, c'est-à-dire que c'est un problème qui dépasse la viticulture, c'est le problème de l'agriculture globalement, on voit bien comment les problèmes de Monsanto sont complètement centraux au niveau mondial, donc c'est un problème de sanitaire, je dirais, c'est au-delà d'une mode et de bien aimer manger bio ou boire bio. C'est juste, là maintenant, il y a eu des morts, il y a vraiment des problèmes de santé publique. Donc c'est important de faire cette transition écologique. Ouais.
Nicolas Potel, vous-même, vous avez fait des choix très francs, très clairs, quand vous avez monté le domaine de Bélène en 2005.
Tout à fait.
Traction animale. Il y a même certaines conditions du cahier des charges bio qui ne vous suffisent pas, que vous trouvez presque trop laxiste à la limite dans les traitements autorisés. Donc vous êtes vraiment dans une vision tout à fait écologique.
Alors c'est vrai que moi j'ai démarré en bio très tôt, parce que 92, donc j'ai passé le domaine de la Pousse d'Or à l'époque tout de suite en bio.
Ouais.
Bon, moi de toute façon, ce que vient de dire Cédric, il n'y a pas de possibilité. Enfin, le bio c'est la seule possibilité aujourd'hui. Après, il y a d'autres systèmes, effectivement, il y a la biodynamie, etc. Mais le chimique, de toute façon, c'est bien, de toute façon, que c'est la fin. On n'arrive plus, les rendements baissent, on a eu des grands problèmes de restructuration des sols. Enfin, tout le matériel végétal est en train d'en pâtir. Donc, effectivement, on le sait que le chimique, c'est mauvais. Moi, dès le départ, de toute façon, je me suis écarté, d'une part, des études, justement, pour éviter de désapprendre, malheureusement, à l'époque. Et puis ensuite, il y a eu un grand conflit que je retrouve justement dans le film de Cédric avec mon père, sur, mettre le domaine en bio, d'accord, vas-y, mais fait des preuves, quoi.
Là on sent poindre également, et dans le film de Cédric Clapiche, ce conflit de génération sur cette question. On ne conduit pas forcément la vigne de la même façon que ses aïeux.
Il faut pas oublier d'où on vient aussi, parce que effectivement c'est facile de critiquer les générations d'avant, mais on sortait de la guerre, on a demandé à ce que il y a un productivisme, il fallait nourrir la planète, nourrir la France, etc., etc. Faut remettre le contexte. Donc si vous remettez vraiment dans le contexte, effectivement les clones, le chimique, etc., ça a été une des raisons dans laquelle la plupart des agriculteurs et des agriculteurs se sont engouffrés. Maintenant il y a eu la réflexion après. Donc là aujourd'hui on est dans le temps de la réflexion. On peut plus dire aujourd'hui effectivement on ne savait pas. Ramené dans les années 60-70, on n'avait pas autant de connaissances et d'acuité, ce qu'on dit le truc paysan, vous voyez, avoir le petit. Et ben donc à l'époque, beaucoup de gens se sont engouffrés sur le chimique, mais la partie Monsanto, elle est primordiale parce qu'ils ont quand même envoyé, à l'époque, il ne faut pas oublier qu'ils ont envoyé dans les cours, dans les écoles de viticulture, d'agriculture, ils ont envoyé des émissaires. Ils ont poussé les jeunes générations.
Ça s'appelle du lobbying.
Et à l'époque, ils ont poussé toute une jeune génération qui disait, mais écoutez pas votre père, il fait de la bourre, le machin. Non, il existe des herbicides, des machins, etc. Donc effectivement, il y a eu un lobbying énorme des grosses sociétés quand même.
Antoine Gerbel, fin observateur de nos vignobles et de la Bourgogne, est-ce que vous sentez justement que ce vignoble est, agité par ce débat de la viticulture naturelle?
Je nuancerais parce que Nicolas Potel dit c'est la fin. J'aimerais que ce soit la fin. C'est pas tout à fait la fin. Et je rebondis aussi sur un mot qui est très anxiogène. Vous avez parlé de mort, c'est vrai, mais il faut rassurer. Il n'y a pas de consommateurs qui sont morts buvant du vin.
On comprend en tout cas, c'est amené de façon très subtile la façon dont est décédé le père.
C'est ce qui est vraiment intéressant et bien amené, c'est que ce sont les hommes qui sont concernés, ce sont les vignerons. Et c'est ça qui me choque le plus, c'est que comment des vignerons continuent en sachant que c'est leur propre santé. C'est jamais la santé du consommateur. Il faut surtout pas dire qu'on risque quelque chose au niveau de la santé en buvant du vin. Non, c'est pas vrai. Les doses sont infimes. Mais après, c'est vraiment une question personnelle d'utilisateurs. Il y a encore des vignerons qui montent sur un tracteur et qui sont habillés comme des cosmonautes, exactement comme dans le film, et qui prennent des risques déjà pour eux, pour leurs enfants, près des écoles. On a plein de problèmes aujourd'hui de vignes qui sont traitées à proximité des villages très petits où on prend des risques. Après, dans la démarche, dans le goût du vin, effectivement, la Bourgogne, ce sont quand même beaucoup de jardins. Les vignerons travaillent quelques rangs, on appelle ça des ouvrés. Et à ce moment-là, il y a eu une réaction, on va dire. La Bourgogne a réagi. C'est la région qui a réagi le plus rapidement. Quand la prise de conscience a été faite, qu'il fallait retravailler les terres, qu'il fallait baisser les doses, donc ça a pu être fait parce que...
Rendre à nouveau les sols vivants.
Et effectivement, vous n'êtes pas à Bordeaux, vous avez 90 hectares à travailler, vous avez la moyenne, c'est 8 hectares du vignoble en Bourgogne. Ce sont des petites... Et quand je dis 8 hectares, ça fait surtout appel aux grands... Enfin, ça rééquilibre avec Chablis et le Mâconnais, parce qu'en Côte d'Or, c'est plus souvent 4,5. Et donc, c'est vrai qu'ils ont pu réagir très vite. Un matin, quand ils se disent, bon, on y va, on rachète les outils pour retourner la terre, on change notre mécanique pour faire du bio ou de la biodynamie, c'est beaucoup plus rapide que dans des régions qui sont, on va dire, des volumes plus grands.
Cédric Clapiche, est-ce que le choix de la Bourgogne s'est imposé finalement assez rapidement, au-delà évidemment du lien privilégié que votre père entretenait avec ce vignoble? Vous avez hésité avec Bordeaux?
Non, j'ai pas hésité. Il y a aussi le fait que je connaissais des gens qui m'ont... Enfin, sans l'aide de ces gens-là, j'aurais pas pu faire le film, donc ça s'est vraiment imposé. Mais c'est vrai que ce qu'on vient de raconter avec le fait que maintenant on appelle ça les climats, il y a 1400 climats en Bourgogne, donc c'est pas complètement juste des parcelles, c'est des entités qui font que c'est plus familial, c'est des plus petits domaines, et donc du coup c'est vrai que le côté artisanal est plus intéressant en Bourgogne.
C'est ça, et on est en l'occurrence la famille que vous décrivez, ce sont, on va dire, sont quand même des bourgeois,
ils sont propriétaires,
mais très attachés. Là, il est aussi évidemment affaire de liens, très attaché à la terre. Ce sont des terriens.
Ouais. Et c'est vrai ce que vous disiez tout à l'heure sur le côté paysan, agricole de la Bourgogne. Il n'y a pas le côté industrialisé ou grande compagnie agricole comme dans d'autres régions. Et c'est vrai que là, ils sont quoi, 5 dans ce domaine à travailler dessus. Et donc, c'est vraiment une exploitation familiale, quoi.
La Bourgogne, on y est, on y reste, et même pour manger.
Avec une fourchette, des baguettes et même avec les doigts, on va déguster sur France Inter.
Vite, jetons-nous sans bouger, jetons-nous dans la vendange sur les coteaux de Brouilly.
Avec les airs qui roulent. Bon, vous avez trouvé ou pas, petite énigme, une auteure bourguignonne, grande dame de la littérature française, Cédric Lapie.
Alors frisé, c'est Colette.
Voilà, bravo. Et les cheveux toujours. Hein. Colette qui avait dit aussi « Une page difficile, une fin de roman se trouve bien d'un repas un peu chaud en épices, d'un verre exceptionnellement rempli. » Congestion devient alors synonyme d'inspiration.
Joli.
Ce qui nous aide toujours quand on prépare nos chroniques.
Sorcière, romancière, mais aussi cuisinière et toquée de vin. Faut le préciser quand même, Colette adorait le vin, c'était quand même une sacrée gourmande.
C'était aussi une authentique bourguignonne puisqu'elle était née à Saint-Sauveur-en-Puisaye. Et Sidonie Gabrielle Colette, car c'était son nom de famille en fait, a baigné dès l'enfance dans une incroyable initiation au goût. Un peu comme les enfants du film de Cédric, qu'elle raconte entre autres dans Sido. Et entre ses 11 ans et ses 15 ans, sa mère lui a appris à goûter le vin dans la cave en dégustant les vieux crus que lui avait légués son premier mari. Mmh. Et ensuite, tout au long de sa vie, Champagne, Bordeaux, vin du Jura ou de Provence, elle a découvert des vins à chaque fois qu'elle avait de nouvelles amours. Elle s'était même amusée à être vigneronne lorsqu'elle était à Saint-Tropez, en faisant une cuvée de 1000 litres de rouge, 80 de blanc et même du ratafia qu'elle a fait cuire en plein air dans son jardin.
Ah ouais, vraiment la toquée de vin. Hein.
C'est une vraie passion qu'on retrouve au cœur d'un de ses plus beaux textes, qui est très cher à votre cœur, je crois, François-Régis.
Ouais, superbe.
Les Vrilles de la vigne, qu'elle écrivait en 1908. C'est comme une légende, elle raconte que le chant nocturne du rossignol est dû à sa peur de se faire enserrer la nuit par la croissance rapide printanière de la vigne.
Génial.
Tant que la vigne pousse, 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 je ne dormirai plus, dit en fait le chant du rossignol.
Mais alors comment on a découvert tout ça?
Grâce à la correspondance serrée qu'elle entretenait avec deux de ses marchands de vin, qui n'étaient pas que des bons de commande. D'ailleurs, c'est une correspondance qu'on peut lire dans un livre formidable, Colette et la passion du vin, de Bernard Longeon aux éditions du Moment, et qu'on peut aussi découvrir sous forme d'une exposition itinérante qui s'appelle Colette et le vin, qui tourne en ce moment dans toute la France et beaucoup en Bourgogne. D'ailleurs, du 2 au 19 septembre, elle sera à Chassé-le-Camp entre Bonne et Mercuray. Et vous avez toutes les infos pour les dates sur la page Facebook Colette et le vin. Mais d'ailleurs en Bourgogne, quand on boit du blanc, en général, qu'est-ce qu'on sert? Une petite gougère peut-être?
Bah évidemment, que vous avez faite d'ailleurs.
Mais bien sûr.
Définition de la gougère, Nicolas Potal.
Bah c'est une pâte à choux avec du fromage. Bravo. Normalement, ça devrait décompter.
Vous revendiquez la paternité bourguignonne de la gougère ou pas?
Je pense. J'ose.
Oui, alors j'ai pas trouvé d'explication logique sur pourquoi la gougère est bourguignonne. En tout cas, c'est toujours celle que l'on sert. Le meilleur secret pour la réussir, vous trouverez la recette sur le site.
C'est pas mal.
Merci.
Et en plus, c'est froid.
Elles auraient mérité d'être tièdes.
De bonnes gougères froides, c'est rare.
Voilà, je les ai faites ce matin. Bon secret, c'est d'avoir la poigne quand même pour incorporer les œufs un à un, bien toniquement.
Ouais.
Et pas hésiter sur la quantité de fromage. L'autre petite astuce, c'est de mélanger du fromage fraîchement râpé et des petits cubes pour avoir deux textures différentes. Mais vous retrouvez sur la page, on va déguster.
On peut dire à nos auditeurs ce que vous nous avez dit en préparant cette émission ou pas?
C'est-à-dire ?
La nature du fromage que vous utilisiez, c'est un scandale.
Là, c'est du comté, j'ai respecté la tradition. Maintenant, quand c'est pour mon usage personnel, souvent je fais moitié comté, moitié cheddar. J'aime bien le goût un petit peu plus salé du cheddar, ça rajoute quelque chose.
Qu'est-ce qu'elle est snob ?
C'est un secret.
C'est ça. Autre petite recette ?
Oui, Colette, elle avait aussi la passion de la cuisine et elle faisait des recettes toutes simples qu'elle a confiées à sa bonne, qui travaillait avec elle pendant 38 ans, quand même, dans une pochette bleue qu'on a retrouvée. Et elle a laissé une petite recette de fromage frais aux cerises. Incroyable. Alors je vous la livre telle quelle, il n'y a rien à refaire.
Attendez, c'est un dessert, c'est une entrée?
Eh ben, on va déguster, on va voir ça. Parce je suis en train de le mélanger.
Vous savez que je suis lyonnais.
Bah, c'est un peu de la cervelle de cagnot aux cerises, quelque part.
Je voulais en venir là, ouais.
Alors tout simplement, sous la voix de Colette, de l'ail, de blancs oignons, des cerises, gros sel et poivre sur le fromage blanc à peine figé, le muscadet bien frais.
Faites passer par ici.
Quand on ne peut faire mieux, c'est une manière d'aller à la campagne.
Pas mal.
Alors moi j'avais tout préparé.
Non, moi c'est sans pain.
Vous c'est sans pain?
Oui, non, passez-moi le plat.
Quel gourmand.
Alors écoutez, je vais vous dire.
Colette était assez extraordinaire parce qu'elle était bourguignonne, elle revendiquait, et puis on l'entend à son accent, mais elle était ouverte à tous les vins. Ce qui n'est pas toujours le cas de tous les bourguignons, qui sont quand même assez chauvins. Bon, on va dire beaucoup de vignobles, mais j'ai toujours aimé Colette pour ça, c'est son ouverture d'esprit.
Et son ouverture d'esprit preuve aussi qu'on peut être une femme libérée, n'est-ce pas?
Et adorer
passer son temps au fourneau, en fait.
C'est absolument compatible et même recommandé.
Ce qui n'est pas du tout un paradoxe. Ça, c'est une recette que j'adopte immédiatement. Je trouve ça délicieux.
Et alors, elle est vraiment toute simple. Le truc, c'est quand même de mélanger, d'ajouter les cerises au dernier moment pour pas que ça devienne tout rose et que ça garde toute sa fraîcheur, en effet.
Franchement, bravo.
Mais bravo à Colette, surtout.
La recette et vos recettes réadaptées sur franceinter.fr à la page On va déguster. Colette, amatrice de vin, de cuisine et même de vendange.
J'imaginais la récolte lente, les paniers pleins, la soif qui croit se satisfaire en mordant la grappe, à tout labeur, tout honneur. En bas, 40 vendangeurs avaient la meilleure table, servie d'omelettes, de veaux, de poules, de cochons, arrosée de ce vin qui, comme les plus beaux rubis, garde aux lumières sa sanguine et franche couleur.
J'ai une bonne nouvelle pour vous, Estherelle.
Oui.
Cédric Clapiche s'est occupé de l'accord Mévin avec votre fromage blanc, votre faisselle, aux cerises. Petite surprise liquide de Cédric.
Alors j'ai amené un Ruilly premier cru l'émargoté de chez Vincent Durieux-Gential.
Alors là, je suis très content que Cédric pense à Vincent Durieux-Gential. C'est un de mes domaines fétiches que je connais depuis plus de 20 ans.
Les grands esprits se rencontrent.
Et non, mais surtout, c'est la bonne adresse qu'on se refile discrètement entre amateurs de Bourgogne, et on essaye de pas trop les bruiter parce que c'est malheureusement, comme tous les domaines en Bourgogne, il y a pas une énorme production, mais les prix sont très sages, les goûts sont d'une franchise extraordinaire, et voilà, c'est un vignoble qui a bien évolué. Eux, ils sont en bio, ils ont fait leur évolution, mais sont oui, et ce sont surtout des gens tellement charmants qu'on est en cave avec eux. On ressent toute l'humanité de la Bourgogne.
Vous les connaissez? Comment vous les avez découverts?
Alors en fait, j'ai en tournant pendant un an en Bourgogne, oui. Parfois j'allais au restaurant et je goûtais des choses. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est bon? C'était justement les margotés. Et du coup, j'ai voulu aller visiter leur cave et ils m'ont très bien reçu. Ils sont ultra gentils. Et c'est vrai, je rejoins ce que vous avez dit sur le fait qu'il faut pas croire que c'est des vins chers. Les vins dont on a parlé jusqu'à présent, c'est des vins qui sont entre 10 et 20 euros. Et c'est vrai que c'est important de dire qu'il n'y a pas que des vins à 100 euros, à 50 euros en Bourgogne.
Même si c'est vrai que la Bourgogne a quand même, on est d'accord, une image assez élitiste, ne serait-ce que par le fait qu'il y a des grands domaines qui possèdent les vins rouges, notamment les plus chers du monde. Est-ce que la Bourgogne est encore accessible? Est-ce que les Français vont pouvoir encore longtemps boire de la Bourgogne, considérant aussi d'ailleurs l'énorme attraction qu'opère la Bourgogne auprès des dégustateurs étrangers?
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a 6-7 fois moins de Bourgogne produit que de Bordeaux. Donc vous imaginez, à l'échelle de la planète, il y a forcément un manque, une pénurie. Mais c'est vrai que le Pinot Noir étant le cépage rouge qui fait les grands rouges de Bourgogne est minoritaire. La Bourgogne, elle est plutôt blanche. Et dans cette famille de blancs, on peut trouver en ce moment encore plein de vins. Citons Chablis. Bon, les malheureux ont été touchés 2 années de suite par du gel et du grêle, mais les grands crus de Chablis sont accessibles. Si on va à Chablis, c'est 1h30 de la région parisienne et à peu près de 2 heures de beaucoup d'endroits de France. On trouve du vin, on est accueilli. À la Côte de Beaune, elle a aussi du vin. Elle a même si aussi des accidents climatiques avec des petites productions, mais il y a des à Berceau, on trouve encore du vin. Et puis après, on descend un peu, on va en Côte Chalonnaise. Il faut aller en Côte Chalonnaise.
Justement, on discutait. Vous parlez de Côte Chalonnaise. On discutait avec notre réalisatrice Michèle Billou, avec une amatrice de Givry dans les couloirs d'Inter. Il se trouve qu'elle travaille dans la maison, c'est Christiane Alain. Elle a une fidélité familiale à Givry, à Bourgogne de la Côte Chalonnaise, depuis des années. Et elle m'expliquait que le vin qu'elle avait l'habitude de prendre en cette année avait tout simplement vu son prix doubler. Ces prix qui flambent, vous les constatez, Nicolas Potel?
Ben, tout à fait, c'est la problématique qu'on a eue sur les 5 dernières années avec des toutes petites récoltes. Conjoncture aussi du fait qu'il y a une demande assez importante sur les vins. Mais moi, je souligne le fait qu'en Bourgogne, effectivement, il y a des vins de petites appellations donc génériques. Et aujourd'hui, il y a des Coteaux Bourguignons qui, si elles sont faites dans les bonnes conditions, ça devrait sortir des super bouteilles dans les années qui viennent. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle toujours des grands vins, des grands domaines, des grandes appellations. Mais finalement, si vous regardez la pyramide de la Bourgogne, la partie régionale, elle est énorme.
Au domaine de Belen, quel genre de fourchette de prix? Vous avez un peu toutes les gammes, entre guillemets? Et vous avez également des vins accessibles?
Alors sur le domaine, on démarre les premiers vins, on démarre à 10 euros sur les génériques. Mmh. Et puis effectivement, après on monte sur les premiers crus qui sont très chers. Mais la partie, ce qu'on est en train de goûter aujourd'hui, là, les centenaires, puisqu'on va goûter après les Savigny-les-Beaunes, c'est des bouteilles qui sortent à 24-25 euros. Donc avec le travail qui est fait derrière, sur les petites récoltes qu'on a eues derrière, les dernières années, effectivement, ça reste des bouteilles qui sont abordables.
Alors il y a un si important, c'est quand même parce qu'on peut pas tous aller en Bourgogne acheter, il faut trouver aussi des bonnes sources. Donc je milite encore une fois pour les cavistes,
parce que
c'est vraiment le travail du caviste, c'est d'aller lui en Bourgogne, d'aller trouver et là je suis désolé de retaper un coup sur l'enclume, mais la grande distribution, l'offre de Bourgogne en grande distribution est globalement calamiteuse.
Oui, c'est vrai.
Parce qu'on a vraiment parce que le Bourgogne on en fait son éloge mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de vins aussi qui n'ont aucun intérêt. Il y a des entrées de gamme, mais vraiment, vous les goûtez, vous, mais c'est vraiment, il faut mieux boire de la bière, hein, vraiment, je vous assure. Mais j'aime beaucoup. ce que je veux dire, c'est que, voilà, il faut savoir qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas le vin, qui vont dans un rayon de grande surface et qui prennent un Santenay ou un Savigny et ils goûtent une gorgée et ça ne recrute absolument pas. Ils n'ont pas envie de recommencer l'expérience parce que voilà, on va dire que la Bourgogne, ça nous fait rêver, ça nous procure des émotions extraordinaires quand on est amateur de vin, mais ça peut malheureusement aussi, pour quelqu'un qui n'a pas les portes d'entrée, être très déceptif.
Vous versez quoi dans nos verres, Nicolas Potel ?
Alors tout de suite, maintenant nous allons voir un Savigny-les-Beaunes 2015 en blanc.
On se retrouve juste après Albin de la Simone.
Une femme dans chaque port, la même, me suivra-t-elle encore ? Une femme quand je m'endors, la mienne. Au lit jusqu'à l'aurore. Une femme qui embellit ma vie et qui la sale aussi. Une femme qui tient la houle, la barre, et moi qui perds la boule. L'aimer la vie entière, au moins l'aimer bien. En tout cas mieux qu'hier, moins bien que demain. Une femme pour moi tout seul, la mienne, tous mes amis la veulent. Une femme qui rit encore, qui m'aime. Qui n'a pas jamais tort. Une femme toujours d'accord, toujours, et parfois pas d'accord. Une femme qui grandit encore, et moi qui rétrécis. Vie entière, au moins l'aimer bien. En tout cas mieux qu'hier, moins bien que demain. L'aimer la vie entière, au moins l'aimer bien. En tout cas mieux qu'hier, moins bien que demain. L'aimer la vie entière, au moins l'aimer bien. Moins bien que demain. Moins bien que demain.
Ah, ce petit barbecue.
Merci.
Audrey et Juliette, les parcelles du domaine.
Super, hein.
Ah, ça, c'est le boucher 2009. Il tient bien, non?
Si. Je peux me permettre, là?
Bien sûr.
Allez, je me permets. J'irai. Petit manque d'acidité, hein. On attaque. En revanche, en fin de bouche. Petit soupçon d'excès, hein. Il y a du fruit, là. Oh, putain, il y a du fruit. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits. Peut-être un peu trop de fruits. Hein? Vas-y que je te fous de la riotte. Et vas-y que je te fous du cassis. Et vas-y que je te fous du litchi, du récantonné. Ah, là, c'est... Wow, c'est festif, fruit. Hein? Partout. Poup, 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 poup. Ça pétard dans les papilles.
Peut-être éventuellement un peu trop d'alcool, non? J'ai l'impression que votre frère est un peu éméché, là.
Pourquoi? Parce que quoi? Votre vin, il est propre, c'est ça? Il saoule pas, votre vin? Il est trop propre.
Un extrait de Ce qui nous lie de Cédric Clapiche ici présent, où on sent bien que le héros Jean incarné par Pio Marmaille, scène géniale hein, d'ailleurs, très beau jeu d'acteur, n'est pas franchement d'accord avec le vin d'un gros faiseur bourguignon, on va dire, qui veut racheter le domaine de la famille.
Alors oui, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait que c'était plutôt des bourgeois, c'est de la bourgeoisie moyenne, et là il parle à quelqu'un qui est un grand bourgeois, et donc ils ont une sorte de château, et on voit justement qu'il y a quand même des différences sociales très fortes entre les exploitants en Bourgogne.
Et puis il y a des visions du vin, quand même, Nicolas Potel, radicalement différente, entre des vins un peu, on va dire, faciles, explosifs, parfois un peu bodybuildés, beaucoup de fruits, manque d'acidité, et des vins un peu plus qui se tournent vers la fraîcheur, une certaine verticalité. On sent qu'on n'est pas dans le même monde.
Non, mais c'est la difficulté de faire du vin aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut faire des vins qui vont plaire dans la jeunesse et qui vont avoir une capacité de vieillissement. C'est la schizophrénie finalement, mais en fait c'est vrai qu'aujourd'hui, pour tous les jeunes vignerons, pour se faire implanter, etc., la voie de l'excès, c'est souvent ce qu'on va tous chercher, quoi, c'est-à-dire de la couleur, de la puissance, de la concentration, etc. Après, effectivement, c'est avec les années où on s'aperçoit, ou alors par l'éducation. Je pense que bon, moi j'ai eu la chance d'avoir un père et une mère qui étaient extraordinaires, qui étaient vraiment, qui ont monté un domaine magnifique, mais surtout qui avaient un goût. Parce que si on revient sur le film de Cédric,
oui,
ce que j'aime beaucoup, c'est aussi l'histoire du goût.
Oui.
Parce qu'en fait, ça déguste. Donc on a la scène que vous avez mise tout à l'heure où les enfants dégustent et où ils donnent leur avis,
quoi,
leur sensation, etc. Et moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est que à la maison, c'est que ma mère, qui cuisinait beaucoup, qui était une super cuisinière et qui cuisinait toujours très bien habillée. Bon,
oui.
Ça, c'est marrant parce que aussi, on en a parlé tout à l'heure par rapport à Colette et tout, c'est marrant. Mais ouais, voilà, elle avait toujours cette façon, mais elle pouvait vous faire le homard à Noël en étant, vous voyez, dressée pour aller faire le repas après, etc.
Mm-hmm.
Mais par contre, le goût qu'elle avait, c'était incroyable. Elle avait une connaissance vraiment extraordinaire des vins parce qu'elle était venue très très jeune en Bourgogne. Elle est parisienne. Elle est du 16e, donc avenue de la Grande Armée, enfin métro argentine. Donc.
Ah oui.
J'y ai passé un peu de temps, donc ma mère vient d'ici, mais elle a passé toute sa jeunesse avec son oncle pour déguster du vin. Et je pense que cette éducation-là, elle est primordiale. Et mon père, ça a été pareil, depuis tout jeune, il a goûté du vin, ils ont toujours bien mangé. Et je pense que le goût, c'est ça qui fait la différence.
Et c'est très bien retranscrit, effectivement, dans dans le film de Cédric Clapiche. En précisant d'ailleurs, on pourrait penser que c'est a priori un film qui s'adresse aux amateurs de vin, alors qu'en fait le message est universel. Et c'est précisément d'ailleurs même un film qui montre le vin pour ceux qui ne le connaissent pas, pour les néophytes.
Oui, c'est comme Le Loup de Wall Street. C'est ça, c'est-à-dire que c'est un grand film, c'est une épopée, c'est lyrique. Et puis par contre, il y a un décor magnifique. Et je dis magnifique. Je tiens à signaler qu'il y a beaucoup de films quand même ces 10 dernières années qui ont pris quand même l'univers du vin et les vignobles. Ce qui était très étonnant, et je suis fier d'être français aujourd'hui, c'est que c'est le premier film français véritablement qu'a filmé le vignoble avec intelligence, parce que les derniers films qui ont plu, ils étaient plutôt américains, parce qu'il y a eu très beau Sideways, notamment, qui était très un film, là je parle d'une comédie, c'est passionnante, parce que c'était en Californie, on voit le vignoble en filigrane, et il disait des choses très intéressantes. Et là, on a vraiment notre film français qui raconte aussi notre histoire.
Merci. Antoine Gervel, petit coup de cœur ou pas, parce que je vois qu'il y a une bouteille sous la chaussette.
Un Savigny, petit coup de
alors,
cœur.
D'abord, il y a le Savigny les Beaunes, bien sûr, de Nicolas Potel, qu'on a dégusté pendant notre
extrêmement musicale. Bon. Moi, j'adore les vins de Nicolas Potel et le Savigny les Beaunes, il est magnifique.
Et on a fait quelques dizaines de kilomètres entre nos premiers Centenay et le Savigny, donc on monte un petit peu au nord. Mais il y a la rondeur du Savigny, il y a quelque chose, une tendresse un peu plus mielée, qui est super. Et je suis et vraiment, en extase, je le dis, devant les contre-étiquettes, l'étiquette du domaine de Belen. Alors, il y a beaucoup à lire, mais c'est intelligent. C'est-à-dire qu'on vous explique pourquoi... juste une phrase. Vendanger à la main en caisse de 5 kilos. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que c'est un... Et j'étais voir pendant les vendanges. Et vous savez pourquoi il utilise des caisses de 5 kilos? Déjà parce que le raisin est parfaitement, garde son intégrité.
Ouais.
Et il m'a glissé dans la main. Au moins, je peux choisir des filles dans la cave. Parce qu'elles peuvent porter 5 kilos.
Bah, surtout moi.
Et du coup, ça change l'ambiance en cave. Et il n'y a plus ce rapport physique qu'on peut avoir. Non, mais c'est très plein de petits détails. C'est ça, la Bourgogne. C'est de multiples petits détails qui font de l'humanité.
Et la Bourgogne, c'est aussi une affaire de femme. C'est ce qui vous a séduit dans le film de Cédric Clapiche.
Mais oui, avec l'évolution du personnage de Juliette, qui est jouée par Anna Girardot, qui reflète vraiment bien comment, au départ, elle est un peu timorée, mais quand même, elle sait ce qu'elle veut pour le vin. Et est-ce que le temps va lui donner raison à la dégustation? Et cette affirmation du personnage de Juliette par le vin est absolument magnifique. Et il reflète vraiment une histoire du terroir bourguignon où il y a beaucoup de femmes vigneronnes.
preuve que ça, alors, dans une bouteille, il y a aussi la personnalité, effectivement, de l'héroïne.
Oui,
à
oui,
la fin du film.
Oui, non, c'est vrai qu'au début, elle est très fragile et très enfantine et qu'elle devient adulte et qu'elle se renforce. Mais c'est vrai ce que vous dites sur les femmes vigneronnes. Anne-Claude Leflève, c'est vraiment une grande figure de la Bourgogne. Il y a eu Alix de Monti, il y a Lorraine du domaine Comte-Senart qui nous a beaucoup aidé aussi, mm-hmm. qui a beaucoup aidé à fabriquer le personnage pour Anna Girardot. Donc voilà, il y a des personnalités. Enfin, je pense que le vin se féminise de plus en plus.
Ouais. Moi, j'ai rencontré le personnage de Nicole Capron, Manu à Savigny, qui est une amie d'enfance et qui vraiment m'a expliqué depuis toujours que la difficulté des femmes bourguignonnes à s'affirmer en tant que vigneronne et pas la femme du vigneron aussi.
Ouais, ouais.
Antoine Gerbel.
Alors, ça me fait plaisir qu'on évoque les femmes bourguignonnes, parce que, déjà, ce n'est pas pour offenser Nicolas, mais normalement, il y a une femme à sa place, mais qui n'a pas malheureusement pu venir, c'est Axelle Machard de Gramont, que tu connais sûrement.
Très, très bien.
Une femme extraordinaire qui reprend le domaine familial aux côtés de son père, avec, ils s'entendent très bien, mais ils se battent au quotidien pour, elle veut faire du bio, elle veut faire progresser son domaine, et son histoire est aussi très intéressante, et je l'ai trouvée très proche, en filigrane du film. Alors, je vous ai mis un vin rouge dans votre verre. Et ce vin rouge, il raconte aussi, on nous prolonge, puisque c'est une jeune femme qui suit les pas de son grand-père et de son père. Et on est au croisement de ce qu'on évoquait, c'est-à-dire des vins rouges abordables.
J'ai reconnu le cépage. Non, je plaisante.
Et la couleur. Nous sommes à Givry, et c'est le vin signé par Juliette Joblot. C'est
super. Ah, voilà. Alors, Nicolas Potel, un petit mot?
Ah, je l'adore. Je l'adore, elle, déjà en tant que vigneronne et puis en tant que femme. Mais j'adore ses vins. Déjà, les vins étaient très beaux avant. Mais elle amène de la séduction. Elle amène de la, hein, elle amène quelque chose très frais, de très.
C'est très très bon, hein.
On est sur un premier cru de Givry. La serre voisine est célèbre, hein. Là, c'est pas une découverte, hein. Pour justement, un peu comme du Regential, les gens qui frayent, hein, dans les coulisses de la Bourgogne connaissent déjà ces vins-là. Mais, Givry, c'est très intéressant parce que on va vite évoquer le réchauffement climatique, hein. Il faut savoir qu'il y a un réchauffement, il est marquant. On le lit dans les vins. Les degrés augmentent par le sucre de raisin. Et toute cette côte chalonnaise, Mercure, Givry, qui était un peu froide, un petit peu rigoureuse, commence à revenir avec un peu plus de rondeur. Elle a donc, elle est toute jeune, Juliette, elle fait des vins depuis 2012. C'est très marrant, une fois dans une interview, nous sommes en pleine phase de passation de pouvoir, raconte-t-elle. Mon père Jean-Marc a du mal à partir, mon oncle Vincent est toujours dans les vignes. Nous parlerons d'évolution, mais plutôt de révolution.
Ça sent le contraire de génération, d'accord.
C'est exactement cette génération, on va dire les trentenaires en ce moment en Bourgogne, ouais. Doivent se battre, effectivement, mais pour les filles, c'est, je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'opportunités. Elles sont super diplômées, elles font des études d'œnologie, elles ont toutes les compétences. Et puis, c'est vrai qu'elles amènent aujourd'hui une nuance, des subtilités parfois que les garçons ne ressentent pas toujours ou demandent plus de temps. Elles ont au départ, je trouve, toujours une vision sur le vin.
Le budget?
24 euros dans le commerce.
Cédric Lapiche, est-il vrai que vous avez fait votre plus beau tournage?
Alors j'ai l'impression que les gens du tournage disent ça. Donc non, c'était un tournage marquant. Bon, d'une part parce qu'on a passé un an à tourner et qu'on était très heureux de se revoir. C'est-à-dire qu'on a fait, c'était très agréable de faire plein de fêtes de fin de tournage.
C'est pour ça qu'ils ont apprécié.
Et donc du coup, ça a fait grandir un peu. Je rejoins ce que disait Nicolas au début sur le vin, c'est que finalement, on le dit en blague en disant oui. Alors évidemment, il y avait le vin qui fédérait un peu tout le monde, mais oui. Enfin, c'est-à-dire que c'est incroyable à quel point cette notion de partage, parce que depuis le début, on parle, on entend Colette parler, il y a le chant des mots, il y a les lettres, et puis il y a le goût, quoi. C'est-à-dire que quand on a ce vin, là, qui a un goût de cerise, il y a vraiment des choses qu'on partage qui sont assez fortes, qui sont très concrètes. Et c'est vrai que je pense que dans l'équipe et avec les acteurs, on a ressenti ça. C'était un tournage totalement particulier.
Il paraît que vous avez démarré très fort d'ailleurs avec une journée initiatique. vous vouliez faire découvrir votre trio d'acteurs.
J'aurais jamais dû
le
raconter. Non, tout le monde parle que de ça. Oui, alors les trois acteurs ont été totalement bourrés à la fin de la première journée.
C'est le métier qui rentre.
Oui, voilà, preuve qu'il y a de la convivialité évidemment en Bourgogne. Un dernier mot, est-ce que la Bourgogne a vu votre film avant tout le monde?
Oui, ouais, non, c'était important pour nous que la première projection ait été à Beaune, puis à Dijon, puis à Mâcon. Et il y avait beaucoup de gens qui pleuraient dans la salle, oui. Ce qui m'a fait très plaisir.
Et qui se sont sentis tout à fait concernés par la vision que vous offrez du vignoble de Bourgogne.
Oui. Non, et puis même, enfin, c'est ce que raconte Nicolas, là, qui vient de voir le film. Les gens qui font du vin se reconnaissent dedans, ouais.
mais pas que. Hein. Je crois que tout public.
Oui, alors c'est, vous faites bien le.
C'est une
sortie. Il y a des gens qui viennent me voir en disant je déteste le vin, j'ai beaucoup aimé votre film.
Mais je pense qu'ils vont être plus nombreux que ça.
Il y a des enfants de 10 ans aussi qui m'ont dit ça, donc c'était agréable.
Plutôt bon signe. Ce qui nous lie, un Clapiche grand cru qu'on vous recommande d'aller voir. Et encore une fois, pas besoin d'être passionné de vin. C'est une très belle histoire de famille, tout à fait universelle. Ça sort ce mercredi sur nos écrans. Merci beaucoup Cédric Clapiche d'être
venu
sur le plateau dont on va déguster. Nicolas Potel, le domaine de Bélène, avec un site internet très complet sur vos vins, sur votre belle aventure. domainedebélène.com. Vous recevez d'ailleurs ou pas
oui, on reçoit.
Ceux qui désirent venir. Il paraît qu'on est très accueillants pour ça.
On est ouvert tous les jours, 7 jours sur 7. Donc
oui, parce qu'il il a un bras droit, bras gauche, tête pensante, s'appelle Sylvain, qu'il faut citer.
Et Jérémy aussi.
Et Jérémy,
c'est une mini équipe. Jérémy qui a accueilli toute l'équipe de Cédric et tout. Donc voilà, tout le monde est la bienvenue. D'ailleurs en Bourgogne en général,
c'est ça.
Pas pour le domaine de Bélène.
Allez au domaine de Bélène, il y en a pour tous les goûts et pour tous les prix aussi, ce qui est une bonne nouvelle. Dans un instant, après le flash du midi, question politique avec Nicolas Demorand. La semaine prochaine, on va déguster des barques au Havre à l'occasion de la célébration des 500 ans de la ville. Nous avons enregistré une émission en public, n'est-ce pas, Estarelle Payani?
Oui.
Avec Jean-Luc Tartarin, un chef vraiment passionnant, amoureux du vin, amoureux du vin. Et il est installé au Havre. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.